Bonjour à tous. Ce matin, nous allons poursuivre, comme on l'a entendu déjà, notre série d'enseignements, de prédications en lien avec le 500e anniversaire de la Réforme. Les réformateurs ont découvert redécouvert ce qui est au cœur de la foi chrétienne, loin de tout le fatras qui a pu être ajouté au fil du temps. Ils ont redécouvert ce qui était réellement une bonne nouvelle pour eux. Et on a pu résumer leur message en disant, en parlant des cinq sola, sola, un mot qui veut dire seul. On a dit sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus et soli deo gloria. Et pour le dire en français, si vous n'êtes pas latiniste, eh bien, ça veut dire que le salut est révélé par l'Écriture seule, qu'il s'obtient par la foi seule, par la seule grâce de Dieu, au travers de Christ seul et pour la seule gloire de Dieu. Et la vérité que j'aimerais méditer avec vous ce matin, c'est que le salut ne s'obtient que par Christ seul. Solus Christus. Christ est l'unique voie de salut. Il n'existe aucun autre chemin pour accéder à Dieu. Et pour illustrer cette vérité, je vais d'abord vous raconter comment elle a pris forme dans la vie de Luther, Martin Luther, il y a 500 ans. Et nous verrons ensuite pourquoi Christ est la seule voie de salut. Et je terminerai en évoquant les erreurs contre lesquelles se sont élevés les réformateurs à l'époque et celles qui constituent des défis pour nous aujourd'hui. Et comme fil rouge, comme trame de la prédication, je vais m'appuyer sur trois textes bibliques. Le premier qui se trouve en Actes 4, verset 12, et qui dit « C'est en Jésus seul que se trouve le salut ». Dans le monde entier, Jésus n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Paul, dans Tite 3, verset 5, nous dit « Si Dieu, notre Sauveur, nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous. » Et en 1 Timothée 2, verset 5, nous lisons « Il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Alors commençons par l'histoire de Luther, un tout petit bout de son histoire. Dans sa jeunesse, Martin Luther a été un homme angoissé. Il faut dire qu'il a vécu une enfance qui était rude, austère. Ses parents ont eu une éducation sévère. Il n'hésitait pas à recourir aux châtiments, et parfois châtiments violents. Et Luther en a acquis une vision extrêmement sévère de la figure de Dieu. Il a eu la vision d'un Dieu qui était en colère contre lui, à cause de ses péchés, un Dieu qui allait le juger. À l'âge de 22 ans, il vient d'obtenir son diplôme de maître en art, son master, si vous voulez, en termes d'aujourd'hui, et à partir de là, il commence des études de droit. Mais très vite, il va prendre position contre l'enseignement humaniste de l'université. Il estime que cet enseignement est beaucoup trop marqué par la culture antique et païenne. Et d'un autre côté, dans sa recherche de Dieu, il reste tourmenté. Il a beau chercher à faire ce qui est juste, il ne peut jamais assez se repentir de ses fautes. Il n'arrive jamais à faire assez de bonnes œuvres pour éviter la colère de Dieu au dernier jour. Et donc il se questionne sur son salut. Comment puis-je être sauvé ? À l'époque, il va chercher du réconfort où ? auprès de la Vierge, auprès des saints. Et puis il se dit qu'il doit aller un peu plus loin. Alors il quitte ses études de droit et il choisit d'entrer au couvent. Il faut dire qu'il avait le modèle de moine devant lui qui l'impressionnait beaucoup, par leur rigueur, par leur simplicité, par leur dévotion. Et il a envie de développer sa piété, toujours pour satisfaire Dieu, pour mériter sa grâce. En entrant au couvent, il pense qu'enfin il pourra trouver la paix de Dieu. Alors il se soumet à beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Les cellules du couvent ne sont pas chauffées, comme la salle de culte ce matin, mais lui, c'était au quotidien. Il jeûne souvent, il se prive de viande, de poisson. Chaque nuit, il faut se lever pour dire l'office. Luther observe toutes ces règles de la vie monastique de manière scrupuleuse. Il est convaincu que ça sera pour lui le chemin qui va le mener au ciel. Mais au bout de son année de noviciat, il n'a toujours pas trouvé la joie du salut. Et plus tard, quand il se souvient de la première messe qu'il a dû célébrer au bout de cette année de noviciat, il va écrire ceci. Il va dire d'abord qu'il n'était pas chrétien à ce moment-là, et il va dire « Je n'avais pas la foi. Je ne pensais qu'à être digne dans ma personne. » Je cherchais seulement à ne pas être un pécheur. Et cela, ce n'est pas être chrétien, dit-il. Luther n'a pas encore trouvé la lumière de l'Évangile. Il continue à être torturé par cette question : comment est-il possible que je puisse me rendre Dieu favorable ? Alors il cherche. Il a cette vision d'un Dieu de majesté, d'un Dieu qui trône au loin, d'un Dieu de loi, un juge, le Très-Haut, le Très-Saint. Et il sait que Dieu est le péché. Et que par conséquent, il condamne aussi le pécheur. Quand il pense au péché, il pense à une puissance sur laquelle il n'a aucun contrôle. Et lui vient cette image d'un cavalier qui enfourche son cheval. Et il dit le péché, c'est un peu comme ce cavalier qui enfourche l'homme pour le mener là où il veut. Le péché contrôle ses pensées, ses actions. Même mes bonnes actions, dit-il, sont viciées, elles sont perverties par mes désirs qui sont mélangés, qui sont égoïstes. Je devrais pouvoir aimer Dieu, je devrais pouvoir aimer mon prochain. Mais c'est irréalisable. La loi de Dieu est comme un idéal impossible à atteindre. Et Luther désespère. De toutes ses forces, de toute son âme, il réclame le salut. Mais quand il scrute sa vie, il acquiert la conviction que rien de ce qu'il a fait, qu'aucune de ses œuvres ne pourra lui faire mériter la grâce de Dieu. Alors, il se confesse souvent. Et on lui dit, « Frère Martin, tes scrupules, ta volonté de bien faire, t'honore. Mais n'exagère donc pas. » Mais cette réponse ne le satisfait pas. Ce n'en est pas une pour Luther. Ça ne résout en rien son problème. Comment pourra-t-il être sauvé s'il ne le mérite pas? Alors il va s'épuiser à faire encore plus de bonnes œuvres. Et ceux qui l'entouraient, qui le voyaient vivre, avaient le sentiment de voir un saint devant eux. Et pour lui, c'est tout le contraire. Il est en train de mener une vie qu'il haït. Il se met à haïr Dieu pour la vie qu'il mène. Il lutte avec son... Voilà, donc je disais que Luther mène une lutte avec son Dieu, un peu comme le patriarche Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel sur le gué de Yabok. Il lutte et pour lutter, il continue à méditer l'Écriture assidûment. Et c'est de là que va venir sa délivrance. Il a maintenant 26 ans. Son professeur de théologie, Staupitz, qui est aussi son confesseur, son ami, lui demande de se former pour enseigner l'Écriture. Et Luther n'a vraiment pas envie de cela. Envie de tout, mais pas de cela. Et pourtant, il va choisir d'obéir. À 29 ans, il devient docteur en théologie. Mais il reste un homme angoissé. Il reste irrité même par rapport à la justice de Dieu. Comment cette justice qui le condamne peut-elle être une bonne nouvelle? Et Staupitz lui dit, mais ce n'est pas Dieu qui est irrité contre toi. C'est toi qui es irrité contre Dieu. Et de manière très pastorale, Staupitz essaye de l'amener à fixer les regards sur l'œuvre de Christ à la croix. Il lui dit, écoute Martin, le Christ n'effraie pas, il console seulement. Et ainsi, peu à peu, la lumière de l'Évangile entre dans le cœur de Martin Luther. Alors qu'il continue de se battre avec le texte de l'Écriture, mais l'Esprit-Saint lui révèle progressivement le sens de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Et un jour, c'est l'illumination. Il médite sur le texte « Le juste vivra par la foi ». Le juste recevra la vie par la foi. Jusque-là, il n'avait entendu dans la Bible que la voix du Dieu saint qui fait connaître les exigences de la loi divine, qui punit, qui châtie. Et là, il comprend tout à coup que l'Évangile est une bonne nouvelle parce que le pécheur est sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et non par ses propres œuvres. Il comprend que Dieu, au-delà de ses exigences, est un Dieu qui aime passionnément les hommes, qui veut les sauver et non les condamner. Et la lumière arrive dans sa vie. Cela le transforme. Cela le bouleverse. Et cela bouleverse toute sa compréhension de Dieu, toute sa théologie. Ce n'est pas juste un texte biblique qu'il a compris. C'est le sens de la vie, le sens de l'œuvre du Christ qu'il comprend. Christ entre dans sa vie. Et cette illumination intérieure va se concrétiser de manière encore plus particulière dans une expérience qu'il va faire vers l'âge de 31 ou 35 ans, nous ne sommes pas tout à fait sûrs, alors qu'il est enfermé dans la tour du couvent de Wittenberg. Un jour, il médite ce verset qui dit « La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. » Il se dit « Mais comment cette justice qui amène la colère de Dieu peut-elle être évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle ?» Plus tard, à propos de l'expérience qu'il vit dans cette tour, il va écrire ceci. « Je haïssais le terme de justice de Dieu. » Parce que j'entendais par là la justice qui pousse Dieu à punir les pécheurs et les coupables. Et malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète. Je n'avais aucune certitude que je puisse apaiser Dieu par mes œuvres. Aussi, je n'aimais pas ce Dieu juste et vengeur. Je le haïssais. Je murmurais violemment contre lui. J'avais l'ardent désir de savoir ce que Paul avait voulu dire. Et enfin Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais, nuit et jour, je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par laquelle le juste vit s'il a la foi. Et aussitôt, je me sentis renaître. Et dès lors, l'Écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Voyez comment Luther découvre tout à coup le message biblique en son centre. La bonne nouvelle, c'est que la justice de Dieu n'est plus celle qui condamne le pécheur, mais grâce à son sacrifice à la croix, Jésus a satisfait aux exigences de la loi divine et Dieu peut désormais déclarer juste, c'est ça sa justice, la justification, Dieu peut déclarer juste le pécheur qui s'attache à lui par la foi. Voilà la bonne nouvelle. On pourrait se demander pourquoi Luther a dû vivre ces nombreuses années à la recherche de la vérité. Pourquoi son chemin était si long jusqu'à ce qu'il comprenne cette vérité libératrice. Et on peut imaginer que c'est là la pédagogie de Dieu. Dieu prend le temps avec nous pour que nous puissions réellement comprendre ce qui ne va pas. Il a fallu que Dieu mène Luther jusqu'au bord du désespoir à cause des exigences absolues de la loi. Il a fallu que Luther se sente condamné pour qu'il puisse comprendre ensuite le vrai sens de la grâce. Ce n'est pas que Dieu voulait infliger la mort éternelle à Luther, comme il le pensait, mais Dieu voulait tuer l'orgueil de ce moine qui prétendait se sauver par lui-même, qui voulait s'attirer les faveurs de Dieu par ses mérites. Et ce chemin-là, c'est une impasse. L'homme ne peut pas accéder à la sainteté. L'homme ne peut pas aller vers Dieu et lui dire « Tu me dois le salut ». Et Luther a eu tort de s'imaginer que pour paraître devant Dieu, l'homme doit au préalable être saint et être irréprochable. Si c'était vrai, personne ne pourrait accéder à Dieu. Personne. Par contre, là où Luther n'a pas eu tort, c'est de persévérer dans son combat avec Dieu, jusqu'à ce que l'Écriture devienne vivante pour lui, jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'éclaire et qu'il comprenne l'œuvre de Christ à la croix, qu'il comprenne qu'il était délivré de la condamnation divine et qu'il était déclaré juste. Luther a été sauvé à cause de sa foi et non par ses mérites. C'est Christ qui l'a sauvé. Et toi et moi, ce matin, nous ne pouvons être sauvés que par la foi et pas non plus par nos mérites. Seul Christ peut nous sauver. J'aimerais aller un peu plus loin et j'aborde mon deuxième point, qui est de savoir en quoi Jésus peut-il être ce seul chemin? Pourquoi est-il ce seul chemin? Paul, en Tite 3, verset 5, nous dit « Si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous. » C'était précisément là le problème de l'Église du XVIe siècle. Les théologiens de l'époque ne niaient pas qu'il fallait la foi, la grâce ou l'œuvre de Christ pour être sauvés. Mais ce qu'ils disaient, c'est que nos œuvres sont là pour prouver notre foi et elles sont donc une condition nécessaire à notre salut. Dieu ne peut pas nous sauver si nous ne faisons pas des œuvres. Mais dire cela, c'est dire que nous devons mériter notre salut. Alors que précisément, c'est Dieu qui nous sauve, indépendamment de nos œuvres, simplement parce qu'il nous a aimés. Il n'attend rien d'autre de notre part que le fait que nous ayons la foi pour venir à nous. On peut se demander s'il n'y a pas là quelque chose de proprement humain, à vouloir mériter son salut. Est-ce que nous ne sommes pas souvent prétentieux, au point de croire que par nos propres efforts, Dieu est honoré, Dieu est valorisé, comme s'il avait besoin de nous pour être valorisé. Dire cela, c'est aussi souvent oublier que nos œuvres sont souillées, qu'elles sont corrompues, qu'elles ne sont pas pures. Nos motivations, souvent parfois inconscientes, sont entachées par le péché. Nous ne nous rendons pas compte souvent que, même en faisant le bien, nous en cherchons un profit personnel. Quand nous offrons de l'amour, c'est finalement rarement gratuit. Nous cherchons peut-être à obtenir la faveur de Dieu, comme Luther. Nous pouvons peut-être chercher les faveurs des hommes. Nous avons peut-être besoin de reconnaissance. besoin d'amour nous-mêmes, besoin d'être aimés. Nos ambitions, sans que nous nous en rendions souvent compte, nos ambitions pour le Seigneur se mélangent souvent à des ambitions bien humaines. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire parce que nos bonnes œuvres sont souvent entachées de motivations impures qu'il nous faut cesser de faire des œuvres bonnes. Et si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous aurions accompli des actes qui sont conformes à la justice. S'il nous sauve, c'est par compassion, c'est par amour, un amour total, gratuit, parfait. À la croix, Jésus a accompli tout ce qui était nécessaire à notre salut. Son œuvre a été parfaite. Et précisément parce qu'elle a été parfaite, elle n'avait pas besoin de supplément. Tout ce que nous ajoutons à son sacrifice pour mériter notre salut revient à déprécier l'œuvre de Christ à la croix. Et finalement, elle revient à enlever de la gloire qui revient à Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, nous lisons « Seul Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Seul Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. À travers lui, donc à travers la personne de Jésus. Jésus qui est là comme un médiateur, comme un intermédiaire entre nous et Dieu. Pourquoi seulement le Christ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'autre voie de salut? Pourquoi Jésus est-il le seul intermédiaire possible entre nous et Dieu? Jean Calvin, un réformateur de la deuxième génération, a réfléchi à cette question. Alors que l'Église catholique de son temps proposait toutes sortes d'autres médiateurs pour accéder à Dieu. Il nous a invités à réfléchir à l'abîme qui existe entre Dieu, le Créateur, et nous, les créatures. Il y a un abîme tellement important que rien ne permet à la créature d'accéder au Créateur, à la divinité. Nous ne sommes pas des petits dieux, comme beaucoup de courants religieux aujourd'hui voudraient nous le faire croire. Nous ne pouvons pas accéder à l'union mystique avec Dieu, comme beaucoup de philosophies ou de courants ésotériques voudraient nous le faire croire. Il y a une distance radicale entre nous les créatures et Dieu le Créateur. De plus, il faut rajouter que le péché a introduit une coupure, une rupture dans l'harmonie qui existait originellement avec Dieu. Et désormais, nous sommes dans l'incapacité de voir la lumière de Dieu. Comment donc établir ce contact? Il fallait que Dieu descende de sa hauteur. Il fallait qu'il réduise la distance qui nous séparait de lui. Et il l'a fait en devenant lui-même homme à travers son Fils Jésus-Christ. En venant dans notre humanité, Jésus n'a pas abandonné sa divinité. Il a simplement revêtu un corps humain pour se rendre accessible à nous. Et il a permis qu'à travers lui, l'homme, nous puissions voir Dieu le Père. Pour qu'il puisse être ce médiateur entre nous et Dieu, il fallait qu'il soit à la fois homme, pour que nous puissions nous identifier à lui, et qu'il soit Dieu, pour représenter Dieu. Il ne pouvait se dévêtir ni de sa nature humaine, ni de sa nature divine. Parce qu'il était Dieu, il pouvait agir au nom de Dieu. Parce qu'il était homme, il pouvait s'identifier aux hommes. Et ainsi, il était le médiateur parfait. On peut rajouter encore que parce qu'il était Dieu, dans sa divinité, il a pu devenir l'agneau de Dieu, celui qui se sacrifiait pour obtenir le pardon de son peuple. Et parce qu'il était homme, dans son humanité, Il a été celui qui a pu prendre le péché sur lui et qui a même été fait péché pour nous. Et vous comprenez ainsi que lui seul, pleinement Dieu, pleinement homme, pouvait nous sauver et nous réconcilier avec Dieu le Père. De plus, ce Jésus, qui a été l'intermédiaire, qui a permis que nous nous réconcilions avec Dieu le Père, ce Jésus est vivant. Il continue d'intercéder aujourd'hui. Il continue de prier pour que nous puissions obtenir le salut. C'est pour cela que Paul affirme « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les humains, un homme, Jésus-Christ. » C'est uniquement par lui, au travers de sa personne, que nous pouvons rencontrer Dieu. Paul l'a dit, et nous l'avons déjà lu, Actes 4:12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors j'en arrive à mon troisième point. En redécouvrant la vérité de l'Évangile, les réformateurs ont aussi dénoncé les erreurs de leur époque. Or, l'Église pratiquait, et elle pratique toujours, un culte à Marie et aux saints. Je reçois chaque semaine un courrier hebdomadaire de la paroisse catholique du quartier, qui très souvent a des articles extrêmement intéressants et profonds que j'aime et que j'approuve. Mais il y avait la semaine dernière, à l'occasion de la Toussaint, une prière pour les défunts. Il les était dit « Vous allez prier pour vos morts ». On affirmait ensuite que la prière pour les défunts a un effet positif pour les vivants et qu'elle est une occasion de grandir dans la foi. Et un peu plus loin, le lecteur était encouragé à prier Marie, la douce mère, qui est capable de nous attirer vers son Fils ainsi que de veiller sur nos défunts. Et il lui était demandé de nous aider à rester fidèles à l'amour de Dieu pour que nous ayons la vie éternelle. Que doit-on penser de cette piété mariale, de cette piété vis-à-vis des saints? Les réformateurs ont affirmé que seul Christ peut nous amener à Dieu. Ni les saints, ni Marie ne peuvent nous attirer auprès de Dieu ou coopérer à notre salut. Et même si Marie a reçu une grâce toute particulière en pouvant donner naissance à son Fils, au Fils de Dieu, il est difficile pour nous d'accepter qu'on lui prête le nom d'avocate ou de médiatrice, comme on le fait en théologie catholique. Parce que dire d'elle qu'elle est médiatrice ou avocate, n'est-ce pas lui donner une place qui revient à Christ seul? Même si, dans la subtilité de la théologie catholique, le Concile de Vatican dit qu'il ne faut pas entendre par ces termes qu'on ajouterait quelque chose à l'efficacité du Christ, qui est l'unique médiateur. Mais le fait de rendre un culte à Marie pose aussi problème. Même si là aussi la subtilité de la théologie catholique différencie le culte à Dieu du culte rendu à Marie. Néanmoins, l'Écriture nous dit que nous devons rendre un culte à Dieu seul, que c'est lui seul que nous devons prier pour obtenir le secours, que seul Christ est notre avocat auprès du Père, que seul l'Esprit Saint peut ouvrir le chemin des cœurs et apporter l'illumination. Seul Dieu peut nous permettre d'accueillir sa grâce. Seul Christ est l'intermédiaire possible pour nous ouvrir le chemin à Dieu. Aujourd'hui, la question de l'accès à Dieu prend une dimension encore bien plus large. Vous entrez dans n'importe quelle librairie, vous allez voir des rayons entiers qui sont consacrés à l'ésotérisme, à toutes sortes de spiritualités. Tout le monde veut développer son potentiel spirituel. Mais vous aurez beaucoup de peine à trouver un livre qui parle de la spiritualité de Jésus. Ce qui est proposé, c'est une spiritualité païenne, Une spiritualité qui veut nous amener à l'union mystique avec le divin, qui est en tout et partout. Il s'agit d'aller chercher l'énergie de la terre. Il y a des gens qui embrassent des arbres pour aller puiser l'énergie des arbres. Il s'agit d'atteindre l'union du divin avec des techniques comme le yoga. Il s'agit de viser une dimension spirituelle en achetant des céréales qui vont nous donner ce lien à la terre-nature. Toutes ces nouvelles voies de salut sont censées nous amener à une communion universelle, à une paix entre les humains. Si nous laissons de côté toutes nos différences, toutes nos doctrines, tout ce qui pourrait nous séparer. Et beaucoup aujourd'hui sont séduits par cela. Mais est-ce la vérité? La Bible nous enseigne que Jésus est la seule voie de salut. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était averti de ne pas expérimenter les religions païennes. Il a été condamné parce qu'il a adopté des superstitions orientales, parce qu'il a pratiqué la divination, parce qu'il s'est associé à des païens dans des célébrations interreligieuses. Jésus, lui aussi, nous a dit très explicitement de ne pas pratiquer la religion des païens. Or, toute spiritualité qui ne parvient pas à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu en chair, toute spiritualité qui ne déclare pas cela est une fausse spiritualité, une spiritualité que l'apôtre Jean, dans sa première épître, qualifie de spiritualité de l'Antichrist, parce qu'elle s'oppose au Christ. Cette spiritualité n'est pas spirituelle du tout, puisque l'Esprit de Dieu n'est pas en elle. Et je crois qu'il est important aujourd'hui que nous puissions ensemble réaffirmer que Christ est unique, qu'il est le seul à pouvoir nous sauver, qu'il a été le premier à vaincre la mort, à revêtir un corps de ressuscité, qu'il est le seul à pouvoir nous faire entrer dans la nouvelle création de Dieu et à nous accorder une vie éternelle. Et j'aimerais conclure en vous invitant, en nous invitant, à placer toute notre confiance en lui, à recevoir de lui son amour, sa paix, son pardon. J'aimerais vous encourager à adorer Dieu. Adorons-le de tout notre cœur. Rendons-lui gloire pour ce qu'il a fait pour nous. Amen.